Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, ou plutôt rebonsoir. Pour lutter contre le groupe État islamique, la communauté internationale a opté, on le sait, pour la voie militaire. Mais pas seulement. Elle a aussi décidé de tenter de frapper au portefeuille en visant les activités pétrolières du groupe terroriste, en éliminant ses hommes d'argent. Une résolution en ce sens doit d'ailleurs être adoptée ce soir au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors peut-on assécher les financements du groupe État islamique ? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités à mes côtés en studio. Vincent Schmoll, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire et exécutif adjoint du GAFI, le groupe d'action financière. C'est un organisme intergouvernemental qui a été mandaté par le G7 pour travailler à l'assèchement précisément des flux de financement qui sont liés au terrorisme. Et puis avec nous par téléphone, Jean-Charles Brizard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en terrorisme, en financement du terrorisme et vous êtes le président du Centre d'analyse du terrorisme. Alors pour commencer, messieurs, je voudrais qu'on revienne, pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, sur les différents revenus du groupe État islamique. Alors il y a le pétrole dont on parle beaucoup, il y a aussi le blé, le coton, le pillage de richesses, je pense à la fameuse banque de Mossoul, le trafic d'œuvres d'art aussi, et puis le prélèvement de taxes, le zakat comme on dit. Jean-Charles Brizard, est-ce qu'on arrive à chiffrer ces revenus précisément aujourd'hui ?
Précisément non, c'est difficile, on se livre à des évaluations. Hein. Mais l'essentiel des revenus de l'État islamique provient encore aujourd'hui des ressources naturelles à sa disposition grâce à son assise territoriale en Syrie et en Irak. Il s'agit en particulier du pétrole, du gaz naturel, des phosphates, de l'orge, du blé et du coton. Et puis le reste du financement, à peu près 40%, estimé en tout cas, provient de ressources criminelles, c'est-à-dire l'extorsion, les taxes, les confiscations qui sont imposées à la population locale. Ils prélèvent par exemple un pourcentage très important des salaires qui restent versés aujourd'hui encore par le gouvernement central irakien, le salaire des fonctionnaires donc qui travaillent dans les provinces contrôlées par l'État islamique. On sait que les revenus pétroliers ont baissé en raison notamment de l'action de la coalition qui a frappé les moyens de transport, les moyens de stockage et les moyens de raffinage en particulier qui étaient à la disposition de l'État islamique. Tout cela a été compensé par une hausse des taxations sur le territoire de l'État islamique et puis par de nouvelles méthodes des nouvelles méthodes d'extraction. En particulier de transports qui ont été mis en œuvre par l'État islamique.
Alors Vincent Schmoll, Jean-Charles Brizard vient de nous dire que le pétrole, effectivement cette production, les revenus venant du pétrole avaient baissé par l'efficacité des frappes, notamment de la coalition. Alors un, est-ce que vous avez les mêmes données et deux, est-ce que ce n'est que par l'efficacité des frappes qu'on peut lutter contre les revenus pétroliers ou il y a d'autres mécanismes qui sont possibles ?
Bon, d'abord sur les chiffres, nous n'avons pas des chiffres exacts sur la baisse des revenus à la base de sources de pétrole, mais c'est sûr que s'il y a des frappes sur les raffineries, sur les lieux de production, que ça va avoir un effet. Alors, en ce qui concerne comment on peut lutter contre le financement de terrorisme, c'est en fait un des choses les plus importantes de notre organisme. Nous luttons contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Mais le GAFI est là pour établir ou élaborer des mesures que les États devraient mettre en œuvre pour lutter contre ces deux criminalités. Et en ce qui concerne le financement du terrorisme, c'est depuis 2001. Et les deux piliers ou les deux aspects les plus importants de ces mesures sont l'incrimination.
Mais parce que par exemple, je suis désolée de revenir sur le pétrole et de vous couper, Monsieur Schmoll, mais le pétrole qui est produit ou commercialisé, extrait par le groupe État islamique, il est vendu à d'autres pays. Alors est-ce que là-dessus, on peut concrètement agir, rendre aujourd'hui, ce n'est pas interdit d'acheter du pétrole au groupe État islamique ou c'est interdit ?
Si, tout à fait. J'allais venir sur ce point parce que quand j'ai parlé d'incrimination, le deuxième point, c'est sont les sanctions financière ciblée. Et là, c'est le gel des fonds, le gel des avoirs terroristes. Alors, il y a dans les mesures, chaque État devrait avoir la possibilité de geler des avoirs qui sont identifiés en tant que
Des fonds qui proviendraient
des fonds,
de...
Oui,
Parce qu'on dit beaucoup que la Turquie achèterait, alors peut-être par moultes intermédiaires du pétrole du groupe État islamique, mais c'est-à-dire que c'est la Turquie qui devrait prendre des mesures pour...
La Turquie, mais tous les États. C'est une obligation qui vient des Nations Unies, mais qui a été adopté par le GAFI et qui est dans notre système, notre mesure contre le financement du terrorisme. Alors, dans le gel des avoirs, c'est une fois qu'il y a une désignation d'un groupe terroriste ou une personne, une entité, une société, une personne morale qui est liée au groupe terroriste, dans ce cas-là Daesh, c'est l'obligation que l'État doit trouver les moyens dans tous les établissements financiers de geler ces fonds.
Alors Jean-Charles Brizard, sur cette question, vous êtes d'accord avec Vincent Schmoll?
La difficulté précisément, c'est par rapport à ce que dit M. Schmoll, effectivement, il raisonne par rapport à un régime de sanctions qui pouvait être efficace, et je dis bien pouvait être, parce qu'on sait qu'au fil du temps, le bilan des sanctions appliquées contre une organisation terroriste comme Al-Qaïda, c'est quoi? C'est 300 personnes, 300 entités dont les fonds sont gelés. C'est à peu près 100 millions de dollars de fonds gelés dans le monde entier, c'est-à-dire pas grand-chose au regard des moyens de financement de cette organisation. Mais en revanche...
Mais c'est un manque de volonté politique, ou c'est parce qu'on n'a pas réussi à identifier les personnes qui profitent de ce trafic?
Non, c'est parce que je crois que surtout que ce modèle de sanction, le gel des fonds en particulier, pouvait être applicable à une organisation comme Al-Qaïda, puisque l'essentiel du financement de l'organisation provenait de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des flux financiers. Or, en l'occurrence, s'agissant de l'État islamique, c'est une organisation, le sait, qui est essentiellement autosuffisante. C'est la raison pour laquelle, je pense qu'il faut absolument repenser le modèle des sanctions qui permettraient de limiter le financement de l'État islamique, et qu'il faut évoluer progressivement vers un embargo, parce que l'essentiel tient à quoi? Tient aux frontières aujourd'hui. La capacité de l'État islamique à faire transiter des ressources naturelles, en particulier du pétrole, à travers les frontières, lui assure des revenus d'une importance énorme par rapport à d'autres organisations.
Alors quand vous dites, excusez-moi, embargo, vous voulez dire quoi exactement? Si on mettait en place un embargo de quoi, vers qui?
Je veux dire concrètement, instaurer un embargo sous le régime de l'ONU, comme on l'a fait dans le passé à l'égard d'une entité non étatique qui était l'UNITA en Angola. Cette organisation avait de la même manière accès à des puits de pétrole et donc à des ressources financières. En 93, l'ONU a pris des mesures, et notamment un embargo, qui permettait véritablement de verrouiller le territoire. Parce qu'il est évident que dans le cadre de l'État islamique, tout ce qui sort du territoire de l'État islamique est destiné à renforcer financièrement cette organisation. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'embargo sur les ressources. Aujourd'hui, on a un embargo uniquement sur les armes. Donc il faut voir si la résolution qui sera adoptée vraisemblablement ce soir est une résolution simplement à valeur déclarative, comme toutes les autres depuis 18 mois maintenant, ou si véritablement il s'agit d'une résolution contraignante qui prévoit un régime de vérification et de sanctions. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les États vers lesquels transitent ces ressources ne sont pas sanctionnés et d'aucune manière.
Vincent Schmoll, sur cette notion d'embargo qui irait donc plus loin, Jean-Charles Brizard nous disait il faut repenser ce système. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez que c'est une idée intéressante?
En fait, quand on parle de gel des avoirs, nous avons une définition assez large de fonds. C'est pas uniquement des fonds, c'est-à-dire de l'argent, c'est aussi des autres formes d'aide qui peuvent être données aux groupes terroristes qui doivent être tracés et aussi bloqués si c'est possible. Et voilà, quand je parle de l'incrimination, l'aide aux personnes, aux groupes terroristes, c'est-à-dire même donner quelque chose, même si c'est pas pour un acte ou un attentat précis, ça devrait être incriminé. Ça peut être une arme assez importante pour lutter contre le financement du terrorisme. Mais je dois rajouter que quand on dit le gel des avoirs ou gel essentiel des fonds pour lutter contre un groupe terroriste, c'est pas la seule arme. C'est seulement une partie des armes qu'on doit utiliser contre le terrorisme.
Et sur ce que disait Jean-Charles Brizard, il faut que cette résolution qui va être adoptée normalement ce soir ne soit pas que déclarative mais contraignante. Qu'est-ce que vous répondez?
Oui, je pense que bon, dans nos mesures du GAFI, nous avons déjà une sorte de contrainte, mais on, c'est-à-dire, nous avons un système pour nommer les pays qui posent des problèmes, qui sont pas coopératifs en matière de lutte contre le blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme. On a déjà regardé 80 pays autour pendant les dernières dizaines d'années, dont 58 ont été nommés.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'en les nommant, déjà, c'est un peu les contraindre.
Oui, ça les contraint parce que, en fait, les pays veulent pas être vus en tant que des aides aux terroristes. C'est-à-dire,
il y a une sorte de force médiatique
c'est
à
force
dire
médiatique,
ce pays.
Mais c'est une force.
Et quel pays, par exemple, vous pouvez nous donner 2-3 exemples?
Des pays actuellement sur la liste, ce sont des pays qui sont plutôt des petits pays qui restent actuellement, qui ont des problèmes. Je suis désolé, j'ai pas ma liste devant moi, mais
non, c'est
mais,
pas grave.
Mais bon, il y a des pays et on a eu l'occasion, même l'étude. Qu'on vient de faire de 200 pays ou à peu près 200 pays pour voir leur situation en matière de incrimination et de gel des avoirs, on a identifié, je pense que c'était à peu près une cinquantaine qui avaient des problèmes
et même qui n'en faisaient pas assez.
Et puis eux, ils ont déjà pris des actions depuis le mois de juin pour essayer de régler
de
ces problèmes.
Leur arsenal.
Renforcer, oui, tout à fait.
Jean-Charles Brizard, je disais tout à l'heure dans l'introduction que l'une des stratégies aussi aujourd'hui de la communauté internationale pour assécher ces sources de financement, c'était de couper des têtes, si vous me passez l'expression, de celle des financiers. Exemple, le trésorier du groupe terroriste Abou Salah a été tué lors d'une frappe. Est-ce que ça, ce sont des choses qui sont de l'ordre du symbolique ou ça peut vraiment avoir un impact opérationnel sur le terrain?
Non, on l'a vu, tout ce qui peut être fait pour réduire l'infrastructure financière, la capacité financière à travers notamment les dirigeants du groupe est extrêmement important parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui sont à la manœuvre et qui permettent à ce trafic de se poursuivre. Mais encore une fois, je reviens sur l'histoire des sanctions. Ce qu'il faut bien voir s'agissant de l'État islamique, c'est que on raisonne par rapport à des sanctions essentiellement financières, qui concernent des gels des fonds. Pour geler des fonds, par définition, il faut identifier ces fonds, identifier des comptes bancaires en particulier. En l'occurrence, on sait que l'État islamique est autonome, est autosuffisant, et que les transactions financières, elles se font, bien évidemment, elles se font essentiellement localement, sur le territoire même de l'État islamique. Elles se font entre l'État islamique, ou ceux qui contrôlent les puits de pétrole, par exemple, et les intermédiaires.
On peut avoir une action là-dessus?
La difficulté, c'est que c'est extrêmement compliqué, il faut avoir beaucoup de renseignements financiers pour établir que des intermédiaires sont associés au trafic de pétrole, et d'autre part, les transactions internationales, entre guillemets, que réalise l'État islamique, il y a des échanges quotidiens avec l'extérieur, se font essentiellement par le biais de l'Hawala, c'est-à-dire un système informel de transfert de fonds qui n'est pas régulé dans la plupart des cas et qui est indétectable parce qu'il n'y a pas de transfert électronique entre un pays et un autre. On le sait, entre Raqqa et la Turquie, il y a des transferts très réguliers qui se font à travers ce système informel. Donc il n'y a pas de système bancaire, il n'y a plus de transactions aujourd'hui, si vous voulez.
Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a plus de transactions, comme vous dites? Comment est-ce qu'on peut essayer de les contourner pour quand même assécher cet argent qui circule?
Ben, il faut, selon moi, à la fois empêcher toute ressource de quitter le territoire de l'État islamique et, deuxièmement, être extrêmement ferme à l'égard des pays qui autorisent sur leur sol ce type de transaction. Je parlais en particulier de la Turquie, bien évidemment, dès lors qu'il est établi que ces transactions sont destinées à enrichir l'État islamique.
Et quand vous dites plus ferme, vous voulez dire quoi?
Il faut un véritable régime de vérification et de sanction, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Effectivement, on pourra inscrire sur une liste du GAFI un certain nombre d'États non coopérants, si on, faudrait-il qu'on puisse établir qu'ils sont non coopérants, mais il faudrait, au niveau de l'ONU, un régime véritablement de vérification et de sanction contre les États, pas simplement les États, les entités, les individus et les États qui violeraient l'embargo, en l'occurrence, puisque moi je prône véritablement l'établissement d'un embargo sur le territoire.
Vincent Schmoll, ce système de vérification et de sanction, on en est très loin pour l'instant, ou c'est ce vers quoi vous allez?
Je pense que oui, ça peut être important, ça peut rajouter à la lutte contre le terrorisme et ça peut être efficace aussi, mais pas tout seul. Je pense que quand même le financement, c'est vrai ce que Monsieur Prisard avait dit, que il y a les transactions qui se passent par le hawala et ça peut être indétectable pour une transaction, une opération, mais les systèmes de arrive à certains points où il faut qu'il touche le système conventionnel, le système normal, système bancaire et les systèmes de gel et aussi pour tracer ces fonds.
C'est-à-dire que vous pensez qu'il ne faut pas aller jusque-là
Non, il faut les embargos, peut-être ça peut être...
Pas totalement opposé à l'idée d'embargo.
Non, mais je pense que ça peut pas être la seule solution. Je pense que en ce qui concerne le financement, il faut aussi avoir les mesures financières assez importantes.
Oui. Avant de sanctionner, il faudrait d'abord avoir...
Oui, il faut avoir tout ça. Et aussi, en ce qui concerne les sanctions contre les pays, les vérifications, je suis d'accord, il y a les systèmes des Nations Unies de sanctions et vérifications et tout ça, mais aussi des systèmes comme le nôtre hein, pour regarder les pays et les pays qui coopèrent ou pas. Et comme je vous ai dit, les pays qui sont où on décide qui ne coopèrent pas, que ce soit signalé, que tout le monde soit
au
courant.
Ça, on l'a bien compris. Alors, il y a aussi le trafic d'œuvres d'art, dont je voudrais qu'on dise un mot. Jean-Charles Brizard, on sait que l'État islamique contrôle aujourd'hui 4500 sites archéologiques. Comment est-ce qu'elle les exploite? Est-ce qu'on peut agir sur cette source aussi de revenus?
C'est extrêmement compliqué. On sait qu'en effet, ils contrôlent beaucoup de sites archéologiques, que pour les besoins de la propagande, on voit les destructions de ces biens archéologiques.
Et puis
qu'en réalité, une
grande
partie, voilà, Palmyre, on l'a vu, et qu'en réalité, une grande partie de ce trésor est revendu, en effet. On a très peu d'éléments concrets sur ces transactions. Il y a eu des efforts de la part notamment d'un certain nombre de gouvernements pour informer, pour alerter également des salles de vente, pour également informer les musées du risque encouru par ce type de trafic. Mais c'est vrai que c'est extrêmement, extrêmement difficile. D'ailleurs, les États-Unis eux-mêmes ont une évaluation à peu près de 30 millions d'euros par an, mais ça ne signifie rien en réalité. On sait qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui de vérifier, encore une fois, le volume de ce trafic.
On n'a pas la capacité de mesurer le volume de ce trafic, vous êtes d'accord, Vincent?
Oui, tout à fait. Et je peux rajouter que vu les spécificités du marché d'art, que une fois que ces objets sont entrés dans le marché, c'est quasiment impossible de les retracer vers les origines, et ça pose un problème. Donc ça veut dire que si déjà ces objets sont entrés au marché, ceux qui ont fait les pillages ont déjà leur argent, et puis les objets maintenant sont
sont sortis du circuit pour aller sur un autre circuit.
Entreposés de quelque part, ils vont rentrer dans le marché d'ici quelques années, et puis voilà.
Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos deux invités, Jean-Charles Brizard, expert en terrorisme, président du Centre d'analyse du terrorisme, Vincent Schmoll, secrétaire exécutif adjoint du GAFI. Merci à Florence Ponce, à Laurie Plisson pour la préparation et la réalisation de cette émission. Demain, vous retrouvez François Bernard.